C'est l'été sur France Musique.
Et il est temps d'accueillir tout de suite notre invité du jour, Alexandre Astier. Bonjour.
Bonjour.
Alexandre Astier, vous écoutiez avec attention cette chanson des frères Jacques qui détourne un petit peu, elle aussi, les légendes médiévales. C'est un truc que vous connaissez ou pas du tout, ça, ce répertoire-là?
Non, je connaissais mal. C'est pour ça que je me concentrais sur l'écoute. Moi, vous me donnez un truc à écouter, j'écoute, hein. Je suis sage.
Alexandre Astier, avec qui on va parler aujourd'hui de la sortie du film ce matin même, Kaamelott, premier volet. Alors, on n'est pas là pour trier les lentilles, comme dit un de vos personnages.
Paraît-il.
On va faire le pitch du film rapidement.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça, le pitch? Le royaume de l'ogre est sous le joug de Lancelot du Lac, le tyran. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas entendu parler du roi Arthur. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Et peut-être que on apprend qu'il est en train de revenir. Voilà, c'est le retour du roi Arthur.
Il y a une cohésion entre les 10 ans de la narration et les 10 ans que vous avez mis à réaliser ce film, enfin le tourner, le monter. Il ne vous a pas trop manqué, Arthur, pendant ces 10 années, depuis la fin de la diffusion de la série à la télévision?
Pas tant, non, parce que je savais que l'histoire me pousserait à le mettre en réserve, hein, puisqu'il a quitté son royaume et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en son absence. Donc ça a été très agréable de le retrouver à l'écriture, justement parce que je l'avais pas eu depuis longtemps et que il a fallu que je me demande comment est-ce qu'il avait attendu tout ce temps-là.
Ça fait longtemps que vous rêviez à cette trilogie?
Oui, déjà parce que je sais que 2 heures, c'est un petit peu court pour boucler ma saga. C'est pour quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des séries de 6 heures, c'est un peu compliqué. Donc je sais que ça se passe en 3 chapitres. Ça fait un moment que j'ai envie de ça. Et ma foi, c'est ce qui est en train de démarrer, a priori.
Est-ce que ce sera la fin de l'aventure arthurienne?
Du monde d'Arthur, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de choses que j'ai écrites à propos de Kaamelott et qui ne sont pas dans la saga elle-même. Il y a des BD, donc je continue d'écrire des histoires qui se passent dedans. Mais la saga, la quête du Graal, il serait question qu'elle s'achève au 3e film, oui.
Alors on va rentrer un petit peu plus en détail dans ce film, Kaamelott premier volet, qui sort aujourd'hui au cinéma. À l'origine de Kaamelott, quand vous avez commencé l'aventure, moi j'ai quand même d'abord une question. Est-ce que vous aviez en tête, ce que vous connaissiez, le film Sacré Graal des Monty Python? Je dis ça parce qu'il y a une veine vraiment très absurde dans toute la série et puis dans le film aussi. Je pense en particulier là dans le film à la scène du jeu de Robo Brawl. Honnêtement, je vous le dis, j'ai rien compris.
Oui, moi non plus. Ça, c'est pas moi qui vais vous renseigner là-dessus. Ce genre de jeux sont compris par les gens du Pays de Galles, dans le Kaamelott, dont je ne suis pas. Donc je peux absolument pas vous aider. Oui, les Sacré Graal, j'allais dire plus le travail des Monty Python en général, plus que Sacré Graal en particulier, le Flying Circus, la vie de Brian, parce que je crois que c'est la première émotion vis-à-vis des Monty Python, c'est de se rendre compte qu'ils faisaient de la comédie très sérieusement à l'anglaise, avec cette minutie donnée aux détails. C'est-à-dire que vraiment, pour décaler quelque chose, ils s'occupaient d'abord de le faire très bien. C'est ceux qui ont appris que pour être absurde, il fallait que l'environnement soit solide.
Le comique qui passe alors par les scènes, hein, bien sûr, par les situations dans la série Kaamelott et puis dans le film Kaamelott premier volet, mais aussi, moi je trouve, par la musique, des mots. Il y a un petit côté Audiard quand même, hein, dans vos dialogues. C'est une source d'inspiration, ça aussi.
Absolument, oui. Pour les dialogues, en tout cas. Alors pas que, parce que bon, moi ce que j'aime bien, c'est les langues. Autant dans nos vaudevilles, comme la biche, c'est-à-dire que je pense que ce que j'aime, c'est que les gens aient un langage. J'ai toujours été sensible aux auteurs qui aimaient ça aussi. Hein. Par exemple, Greg pour Achille Talon. Je pense que voilà, c'est tout bête, mais c'est quelqu'un qui a donné un langage à ses personnages, qui a même donné le même langage à tous ses personnages, comme quoi ce qu'on appelle la caractérisation. Il faut que chacun ait son niveau de langage, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il faut que ça sonne avant tout. Il faut que la réplique soit musicale. C'est ce qu'on cherche d'abord.
Bah c'est le cas au début du film, en tout cas dans cette scène hilarante avec Guillaume Gallienne qui incarne une sorte de pirate un peu efféminé, un peu cruel à la fois. Toute la saveur de la scène est là, hein, dans la musique du texte. Bah, puisque je parle de Guillaume Gallienne, on peut dire que vous avez accueilli de nouveaux acteurs là encore, et pas des moindres, hein, dans ce premier volet de la trilogie.
Oui. À chaque fois que j'écris quelque chose, de toute façon, j'essaye d'accueillir tout autant des gens avec qui j'ai envie de travailler, qui sont connus, que les gens connaissent et que je connais moi aussi et qui me donnent envie d'écrire pour eux, tout autant que des jeunes gens qui sont pas connus mais qui rafraîchissent un peu le casting et la famille de Kaamelott. Donc oui.
Ah là, il y a comme un nouvel arrivé dont il faut dire un mot, c'est Sting.
Possible. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Sting?
Bah d'abord qu'on savait pas qu'il avait ses talents d'acteur, il est exceptionnel.
Ouais ouais, je l'avais déjà vu jouer dans Dune, mais c'est vrai que ça m'étonne pas. Je le savais pas, mais ça m'a pas étonné de le voir comme ça. Il a été très studieux, très travailleur, il travaillait ses répliques. D'autant plus qu'il n'est pas totalement francophone, donc ça veut dire que voilà, il voulait tout comprendre, ce qui se passait en face, ce qu'il disait lui. J'ai été très touché, mais je veux dire, je m'attendais pas à autre chose. C'était sûr que c'était un mec comme ça, quoi.
Alors ça, c'est pour les nouveaux. On retrouve bien sûr dans le film des anciens comme Alain Chabat.
Excusez-nous, on a juste préparé une petite journée beauté bien-être, un petit frichti tout fruit. C'est vrai qu'on n'attendait pas vraiment votre visite.
Oui, ça risque pas. On croyait que vous étiez mort.
Oui. Et ça m'avait fiché un coup. Hein. Et alors la petite pas tant, mais bon, c'est vrai qu'elle est moins...
Attention.
Bah quoi ?
Elle est plus, elle est moins. Attention, c'est tout.
En tout cas, vous êtes de retour et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour nous tous, hein, bien sûr, mais surtout pour le peuple breton qui a commencé sérieusement à tirer la langue. Hein. C'est-à-dire ? C'est métaphorique. En fait, ils tirent pas littéralement tous la langue. Ils sont au bout du rouleau, quoi. C'est pareil, il n'y a pas littéralement un gros rouleau avec des gens au bout qui sont... Avec tout au bout des gens qui sont...
Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ?
Bah, des fois que vous redeveniez roi.
Quoi ?
Bah, pardon, mais ça nous a tous traversé l'esprit, hein.
Sans blague.
Vous ressurgissez, là, comme un beau diable, alors que le royaume de l'ogre est opprimé par un malade tyrannique. Oui, oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas... Vous le sentez pas, hein ? Personne ne le sent.
Un extrait du film Kaamelott, premier volet, qui sort aujourd'hui au cinéma. Avec vous, Alexandre Astier, avec la voix d'Alain Chabat, qui joue le duc d'Aquitaine, alors qui, lui, dépense des sommes folles pour votre retour. Mais alors, vous, quand je dis vous, je parle du personnage, Arthur, vous n'avez absolument pas envie. Hein. C'est un peu l'histoire, c'est qu'il n'a pas du tout envie de revenir en Bretagne.
Eh ben non, il y a 6 saisons pour montrer que la quête du Graal est quelque chose qui pèse très lourd sur ses épaules et qu'il essaye de se soustraire à cette responsabilité. Donc là, ça fait 10 ans qu'il avait la paix. En tout cas, il appelle ça comme ça. Et ça lui retombe dessus encore. Donc non, il y va pas la fleur au fusil. Il préférerait que ce film n'ait pas lieu même.
On retrouve quand même, je dis ça pour ceux qui ont adoré la série, les recettes, j'allais dire, de Kaamelott, ces petites formules, ces petites scènes parfois un peu absurdes, hein, tout au long du film.
Un long film, 2 heures de film, c'est un train qui est fait avec des petits wagons de petites scènes, des fois. Alors, il y a des choses un peu plus épiques dans le film, évidemment, parce que c'est, voilà, il y a plus d'ampleur, certainement, mais les petites choses sont là, bien sûr, et les grandes aventures sont faites de petites choses.
Il faut un rythme, d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas plus difficile de trouver un rythme comique sur un grand format que sur un petit format qui était celui du début, le 3 minutes 30?
Non, c'est plus simple, au contraire. Ah c'est, oui, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez comme pour une pièce musicale, vous avez vraiment le choix de pouvoir rentrer dans un mouvement rapide et puis d'un coup de calmer le jeu et puis d'un coup d'aller sur quelque chose de plus introspectif, puis tac, une scène plus drôle comme ça, plus éclatante. Enfin, je veux dire, vous faites une structure. Donc, c'est plus simple parce que vous avez plus d'outils. Pardon ?
Je dis là, c'est le compositeur qui parle.
Oui, parce que c'est fait de la même façon. Les mouvements dans un... On part du tout pour découper ces petits moments et puis leur donner un rythme particulier à chacun, une couleur à chacun. Donc là, c'est pareil et c'est plus simple parce que du coup, on peut aussi penser au grand tableau, quoi.
Alors, on parlait du rythme, justement, la musique, elle est au centre de votre vie, bien sûr. Vous avez toujours composé la musique des épisodes de Kaamelott, idem pour la BO du film, enregistrée en plus par les amis de l'Orchestre National de Lyon.
Oui.
La musique est aussi au centre du film. Il y a cette réplique à un moment, la guerre, c'est de la musique. Est-ce que vous pensez déjà musicalement quand vous écrivez un film ?
Je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas musiciens, qui pour autant pensent musicalement les choses, ça se sent. Je veux dire par là que, je sais pas moi, quand vous regardez un Bertrand Blier, je sais pas si le mec joue lui-même du piano, mais j'en sais rien, on s'en fout. Par contre, c'est un musicien. C'est très clair que c'est un musicien dans sa façon d'amener les choses, dans sa façon de faire parler ses acteurs. Donc, je crois que quand on aime ce langage-là et quand on place le rythme au centre des choses, des prérogatives de ce qu'on fait, c'est le point de départ de tout, c'est le rythme.
Vous avez composé la musique du film, vous l'avez aussi orchestrée. C'est pas vous qui l'avez dirigée, c'est Frank Strobel, hein, qui est à la tête de l'Orchestre National de Lyon. Vous avez composer une musique avec un côté plus épique. Est-ce que c'était une façon, peut-être, de, je sais pas, de complexifier la légende du personnage qui apparaît un peu plus épais, moins seulement un personnage comique.
Au même titre que les décors, que les environnements ont grandi, ont grossi, la musique aussi, elle a pris un cran dans ce genre-là. Elle est là, comme le reste, pour affirmer un environnement très solide et très périlleux pour ces petits personnages de comédie, pour qu'ils évoluent au milieu. Oui.
Allez, on écoute un extrait de la bande originale, la scène autour de l'épée Excalibur. C'est votre musique, Alexandre Astier, c'est l'Orchestre National de Lyon sous la direction de Franck Strobel. Excalibur noir, un extrait de la bande originale de Kaamelott, premier volet, qui sort aujourd'hui au cinéma, interprété par l'Orchestre National de Lyon sous la baguette de Franck Strobel. La musique est de vous, Alexandre Astier. On l'a pas encore dit, mais on va le redire. La musique est déjà disponible au disque depuis novembre dernier sous le label Deutsche Grammophon. Alors je sais, Alexandre Astier, par quelques informateurs et amis de l'Orchestre National de Lyon, que vous aviez envoyé une copie de la musique du film à Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale. Est-ce que vous savez s'il l'a écouté et s'il l'a fait écouter aux extraterrestres éventuels ?
Écoutez, Thomas Pesquet, normalement, en ce moment, devrait être en possession, non pas de la musique, mais du film lui-même. Donc, on va voir s'il a le temps de la regarder, parce que je pense qu'il n'a quand même pas que ça à faire. Mais en tout cas, on le lui a fourni, oui.
Oui, mais il faut bien se détendre un absolument, petit peu aussi absolument. À bord de l'ISS. La musique qui a toujours été là dans votre carrière, est-ce que vous composez, est-ce que vous faites encore de la musique en dehors de Kaamelott?
J'ai pas le temps, vraiment. Ouais. Je bricole, oui. J'ai toujours un peu en tête des choses comme ça, mais j'avoue que j'attends la prochaine chose que je vais fabriquer, que ce soit au théâtre ou au cinéma ou en série ou que sais-je, pour avoir l'occasion de composer pour. C'est un peu ça qui crée mes zones de jeu.
Est-ce que vous avez le temps quand même d'en écouter la musique ?
Pas beaucoup, non. J'écoute pas grand-chose, je regarde pas grand-chose. Je suis...
Vous n'écoutez que du Bach, en fait.
Non, j'écoute pas que du Bach, mais c'est vrai que je... C'est vrai que j'écoute peu de choses parce que déjà premièrement, je ne peux pas écouter de musique de manière passive. Mm. Je crois que je suis pas très doué pour écouter de la musique et faire autre chose. De la musique, ça prend toujours un peu de place, donc du coup, si je fais autre chose en même temps, ça marche pas tellement.
En tout cas, je vous ai demandé, moi, s'il y avait un morceau que vous vouliez partager avec les auditeurs de France Musique, et vous m'avez répondu « Tutu » de Miles Davis. Alors, c'est avec Miles Davis à la trompette, mais en fait, le titre est de Marcus Miller.
Absolument.
Je crois que vous êtes fan absolu de Marcus Miller.
Oui, et c'est marrant parce que ce morceau-là, quand il est sorti, donc moi, chez moi, j'avais pas de platine, CD, tout ça, machin, mais au conservatoire, parce que j'étais en horaire aménagé au conservatoire à Lyon, on avait une médiathèque, un truc où on pouvait entendre des disques, quoi. Et j'y allais tous les jours. Après la cantine, j'allais dans cette machin et je demandais toujours le même disque. Et le type me voyait arriver, il dit, d'ailleurs, je lui demandais plus au bout d'un moment. Il chargeait Tutu et puis je mettais mon casque. Il me donnait juste le numéro du petit truc de casque. Je te mets à la 4. Et j'allais à la 4 et j'écoutais Tutu parce que ça a représenté pour moi un truc incroyable. Marcus Miller, sa façon de composer, et cet album-là en particulier, c'est devenu un modèle pour moi de composition dans le fusion et tout ça.
C'est une obsession en fait que vous aviez...
Mais je marche pas mal comme ça, moi. Je suis plutôt du genre à regarder 200 fois le même truc que 200 trucs différents. Mais là, c'est vrai que j'essayais d'écouter tous les détails de ce truc-là et j'étais assez fasciné par cette couleur de... Alors c'est un enregistrement studio, c'est très propre et tout ça. Après, j'ai aimé les choses peut-être un peu plus cradingues, mais en plus, il était bassiste. Moi, c'est ce que je faisais aussi. Ça a été un modèle, Marcus Miller, pour moi, vraiment.
Alexandre Astier, on fait un petit tour à la médiathèque avant d'aller au self.
À la 4, s'il vous plaît.
Un extrait de Tutu de Marcus Miller avec Miles Davis à la trompette, Marcus Miller lui-même à la basse, John Smiles au synthétiseur, Paulinho da Costa aux percussions et Jabali Billy Hart à la batterie. C'était la musique que vous vouliez nous faire partager ce matin. Alexandre Astier, notre invité dans Musique Matin, qui est là pour parler de la sortie de Kaamelott, premier volet au cinéma. Alors honnêtement, je ne sais pas exactement quand vous avez fini de tourner le film, mais il y a une scène dans les souterrains à un moment donné avec les résistants, on va pas en dire plus, où l'on pense férocement au couvre-feu, au confinement d'hiver, qui a d'ailleurs retardé la sortie du film. C'était volontaire ou c'était le hasard total?
Non, c'est écrit avant. C'est écrit avant tout ce bazar. Le modèle pour tout ça, c'était plutôt notre occupation de 39-45, ouais. qui a nourri nombre de nos films et même de nos comédies. Avec ce partage entre les collabos, les résistants, les traîtres, les attentats, les que sais-je. Donc c'était plutôt ce lexique-là qui était utilisé. disais, effectivement, ça a pris un double langage bien involontairement depuis.
Ça me fait penser que le film sort aujourd'hui, 21 juillet, et qu'à partir d'aujourd'hui, dans les cinémas, comme dans tous les lieux de culture, il va falloir présenter son pass sanitaire ou un test PCR pour entrer. Est-ce que ça vous fait peur, ça, le jour de la sortie? Est-ce que vous avez peur que ça dissuade des gens d'aller au cinéma?
Ah, ça en dissuadera, malheureusement. Ça va pas me faire peur ou pas. Hein. Priorité à la santé de tout le monde. Hein. On va pas mettre le cinéma avant quoi que ce soit. C'est vrai que c'est un peu dur parce que ça tombe pile ce jour-là, que effectivement la décision a été très très rapide et que bon, personne n'a eu le temps de se retourner, pas plus mes camarades exploitants de salles qui se retrouvent bien démunis face à cette soudaineté.
En tout cas, l'engouement a l'air d'être là quand même, puisque j'ai lu que plus de 60 000 places se sont vendues pour les avant-premières du film en 24 heures.
C'est pas mal quand même. Oui, mais là on en est assez. Je sais plus à combien on était hier, mais. On a dépassé les 130 000, oui.
Ah ouais. On va revenir à Kaamelott une dernière fois avant de se quitter. Alors évidemment, on va pas dévoiler tout ce qui se passe dans le film.
S'il vous plaît.
Encore moins ce qui se passera dans les deux autres volets de la trilogie. Mais est-ce que vous le savez déjà?
Oui, j'ai les arches. J'ai mes arches.
Vous savez comment ça va finir, quoi.
Ah, je sais comment ça va finir. Je suis obligé de savoir comment ça va finir.
Est-ce que parfois, pendant que le travail d'écriture, est-ce que parfois justement ces arches, ça peut changer? Est-ce qu'on se laisse entraîner par sa propre écriture et puis on se dit, ah ben tiens, oui, je vais dans cette direction, je m'y attendais pas.
Oui, je crois qu'il faut savoir. Ben après, c'est un peu l'expérience, mais il faut savoir se laisser bousculer dans ses idées. Il faut être très réceptif à tous les accidents, parce que tous les accidents sont heureux si vous savez vous en servir. Notamment, par exemple, un acteur simplement qui vient vous rejoindre et qui présente une langue différente et qui d'un coup vous explique non seulement comment il parle, mais peut-être même qui il est, et puis qui finit par vous expliquer ce qu'il fait là et pourquoi et qui est-ce qu'il va affronter et qui est. Donc en fait, il faut laisser l'histoire se raconter toute seule, avec une espèce de bienveillance d'ingénieur au-dessus pour mettre de l'ordre dans tout ça, mais il faut se laisser bousculer, oui.
Pour finir, je voulais vous dire qu'en préparant cette interview, je suis allé regarder une chose que je n'avais jamais vue, c'est votre tout premier court-métrage, ça s'appelle Soyons Sport, je ne sais pas si vous en
souvenez. C'est pas moi qui l'ai réalisé, écrit seulement, oui.
Ah oui, mais vous êtes dedans, vous tournez par contre dedans, et vous y incarnez déjà un personnage un petit peu aigri, un peu énervé contre tout le monde, un peu blasé. Je voulais savoir, est-ce que c'est vous en fait, le roi Arthur?
Je sais pas.
Est-ce que c'est vous ce personnage dans la vie?
Je ne sais pas si je suis blasé, souvent énervé, oui, sûrement, mais avec l'âge, vous savez maintenant, moi je commence à... Je vais faire des choses plus calmes maintenant. Non, je m'énerve moins. Mais j'ai une passion pour Louis de Funès. Ouais. Louis de Funès qui s'est toujours arrangé pour incarner des rôles de quelqu'un qui va plus vite que son environnement et qui est plus impatient que son environnement et qui aimerait que les choses marchent alors que son environnement les fait capoter. Donc ça, c'est sûr que je fantasme toujours ce type de personnage-là, et c'est ces personnages-là que j'ai envie de jouer. Ouais.
Alors du coup, je repose ma question à l'envers. Est-ce que comme vous, avec l'âge, le roi Arthur, il s'attendrit pas un petit peu?
Alors pas dans le film qui sort aujourd'hui. Au contraire, il est très énervé dans ce film-là. Il est très, il a besoin de vengeance. En tout cas, il va venir pour voir ceux qui sont restés de son côté et ceux qui l'ont trahi en son absence. Donc non, là pour le moment, il est assez vénère. Mais on va voir. Je sais pas quel âge j'aurai pour les volumes 2 et 3. Peut-être que je ferai un joli roi avec une belle barbe blanche là pour le troisième. Peut-être qu'il sera très calme.
Pour l'instant, on va se concentrer sur le premier volet qui sort. Donc aujourd'hui au cinéma, Alexandre Astier avec votre musique. Ben, on va se quitter avec un autre extrait de la musique du film Kaamelott. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur France Musique
Merci
ce matin.
Merci de m'avoir invité.
Bonne chance à Kaamelott, KV1, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi.
Ouais, ça fait nom de code, c'est bien.
Ouais, c'est un peu secret, un peu militaire. Et puis, longue vie à Kaamelott et au roi Arthur. Thank you. Un dernier extrait de la musique du film Kaamelott, premier volet. Musique signée Alexandre Astier, interprétée par l'Orchestre National de Lyon sous la baguette de Frank Strobel. Kaamelott qui sort donc aujourd'hui sur les grands écrans dans tous les cinémas. Je crois que vous êtes déjà nombreux à l'avoir vu en avant-première et je pense que ça devrait continuer d'ici là. Et bien voilà, Musique Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Il est temps de découvrir le nom des gagnants du jour et surtout la bonne réponse à la question. C'était donc Tom et Jerry. Ben oui, c'est le 29e épisode de la série, paru en 1947. L'épisode s'appelait The Cat Concerto, le concerto du chat. Un épisode qui met en scène le chat Tom qui essaie de jouer la virtuose deuxième rhapsodie hongroise de Liszt, qui réveille la souris Jerry et qui dormait dans les touches du piano. Commence alors une course-poursuite hilarante où Jerry essaye de fuir les marteaux du piano qui s'abattent sur les cordes avant de se venger en essayant de perturber le chat pianiste qui doit accélérer le tempo toujours plus rapidement avec de la sueur au front. Et puis à la fin, c'est Jerry qui salue le public et qui reçoit tous les applaudissements à la place du pauvre Tom qui s'est encore fait berner par cette bien méchante souris. Alors bravo à Pierrette Bernier de La Rochelle, Nadia Tantcheva Christova d'Antibes et Guy Schumacher de Pluneret dans le Morbihan. Tous les trois, vous recevrez le disque d'Alexandre Kantorov dans vos boîte aux lettres. La journée ne fait que commencer sur France Musique. Elle se poursuit à 9h avec un nouvel été classique d'Edouard Niqueux. Bonjour Edouard.
Bonjour Clément.
Alors au programme aujourd'hui?
Eh ben aujourd'hui on met cap à l'est, Jana Tchèque, In the Mid, Kodaly et puis Bruckner, parce qu'il faut quand même un peu de gras et que comme dit Caradoc,
le gras c'est la vie. Vous avez bien retenu votre leçon Edouard. À tout de suite.
À demain.
Quant à moi, eh bien je vous retrouve demain matin à 7h30 sur France Musique. Demain nous recevrons la chanteuse Yoon Sonna pour son concert au festival Jazz in Marciac avec le guitariste Ulf Wackenius, concert qui sera d'ailleurs diffusé en direct sur France Musique le 27 juillet. Allez, un grand merci à toute l'équipe du jour. L'émission a été préparée par Marjolaine Portier-Kaltenbach et Florian Henault, dont on salue la grand-mère qui est une fidèle de France Musique. Odile Henault, on vous embrasse très très fort de la part de toute l'équipe. Merci aussi à Maxime de Peretti, Xavier Atto et YouTube Diego Aclopez à la technique. L'émission du jour a été réalisée par Taïsia Froidur. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée sur France Musique et je vous dis à demain.